Et vous rejoindre complètement sur le fait que c'est trop vite parler que de dire que les thérapies traditionnelles ou les procédés traditionnels, pratiques, disons, les pratiques traditionnelles face à la maladie mentale ne servent à rien et qu'elles sont à opposer justement aux thérapies qui sont maintenant codifiées par la médecine moderne. Je pense que même quand on prend par exemple ce qui se passe dans les sociétés de culture musulmane et en particulier ce qui se passe au Maroc, puisque c'est ce que je connais un petit peu mieux, je pense que ce sont des éléments de socialisation. Hier, je pense que c'est Daniel Emler qui a parlé du fait que dans la maladie mentale, il y a besoin de retrouver ce qui caractérise l'être humain, c'est-à-dire la parole, la prise de parole. Je pense que dans ces espaces justement où il y a ces trans collectives, où il y a ces champs collectifs, c'est des espaces de prise de parole, c'est des espaces d'expression de ces patients. Et je terminerai par le fait que, effectivement, dans l'histoire, les fous ont été l'objet de tout un tas de maltraitances, pas seulement de maltraitances en tant que fous, mais de maltraitances par la recherche, de maltraitances par les politiques, etc., et qu'ils sont au centre des préoccupations bioéthiques dans la protection des personnes vulnérables. Quand on parle de personnes vulnérables, les personnes atteintes de maladies mentales viennent en premier et elles nécessitent effectivement des mécanismes de protection qui sont tout à fait spécifiques. Mm-hmm. Donc, et je terminerai par la recommandation de l'OMS. L'OMS elle-même dit que quand il est possible de combiner les pratiques traditionnelles au traitement moderne, eh bien finalement c'est l'idéal. Dans des pays à faible revenu, il n'y a pas de possibilité de psychothérapie. Donc cette approche psychologique ou psychosociale n'existe pas objectivement, sauf pour un minimum de personnes qui ont les moyens et qui peuvent y accéder, qui se trouvent dans des centres urbains et qui acceptent d'aller voir quelqu'un qui a ce savoir, qui est autre chose qu'un imam ou que quelqu'un qui a quelque chose de, disons, une couverture religieuse. Hein. Donc, je pense qu'il serait dangereux et stigmatisant de considérer que le recours aux pratiques traditionnelles soit systématiquement mauvais.
Alors Catherine Jussel aimerait rajouter une phrase, puis après Daniel Lemler.
Je suis entièrement d'accord avec vous, et même ici et maintenant, c'est-à-dire que nous on a des enfants qui viennent d'autres pays, qui sont hospitalisés, qui ont des traitements neuroleptiques ou pas, qui ont une cure institutionnelle, psychanalytique, etc. Mais quand les parents nous disent on repart au pays, on veut faire du chamanisme, une autre pratique, on l'articule avec eux. Pourquoi sinon on n'est plus dans l'alliance. Si on rejette leur culture en disant écoutez, non, arrêtez, comment voulez-vous qu'on les respecte et qu'ils vous respectent? La légitimité, elle est commune. Alors par contre, quand certaines pratiques font boire certains breuvages dont on voit qu'ils sont dangereux, là on en discute avec eux. Mais bien évidemment, la reconnaissance de l'autre et l'alliance passent par la rencontre et la connaissance. C'est pour ça qu'on n'est pas tous obligés d'être ethnopsychiatres, mais qu'on doit reconnaître la culture de l'autre et en discuter et l'articuler, l'intégrer.
Daniel Emler, puis après Daniel.
Oui, à partir des différentes interventions, là, je voudrais ramener la folie dans la cité, et pas seulement dans les lieux qui sont dédiés à son traitement. Quand on parle des sociétés traditionnelles, il y avait sa place. Je crois que c'est important. Quand on regarde l'histoire de nos sociétés, de nos cités, pendant très longtemps, le fou y avait sa place. J'aimerais juste dire quelque chose qui s'appuie sur deux éléments. Le premier, c'est qu'en 1909, il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose qui marque une rupture épistémologique tout à fait importante dans la question de la folie. Il a découvert, il a entendu que le délire n'était pas le signe d'une maladie, mais était au contraire la tentative pour la personne de guérir, de se reconstruire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va permettre d'envisager le rapport à la personne en train de délirer autrement que dans l'idée qu'il faut éradiquer le délire pour la soigner. Et cette remarque qui est de Sigmund Freud quand il s'est intéressé au cas Schreber, elle trouve sa pleine efficience à partir du moment où on a eu les neuroleptiques, paradoxalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fou est devenu quelqu'un d'humain, quelqu'un qui pouvait parler, on a pu lui donner un espace pour se reconstruire dans son délire et pas seulement pour éradiquer ce délire. Et je crois que c'est important dans ce qui se passe aujourd'hui parce que dans une conception qui est de plus en plus répandue, appuyée sur le DSM, eh ben, le délire, c'est un signe, il faut l'enlever. Et dans une autre forme de conception, le délire, c'est quelque chose qui va permettre à quelqu'un de se reconstruire comme sujet. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'il y a ce qu'on appellerait encore aujourd'hui les fous, les malades mentaux, les psychotiques, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés. Mais il y a beaucoup de gens qui sont du côté de ce que j'ai appelé hier la folie ordinaire, qui sont vous, nous, qui ont découvert quelqu'un qui pouvait les aider. Moi. Qui ont découvert quelqu'un qui pouvait justement leur donner un espace pour pouvoir penser, élaborer ce qui était douloureux, la souffrance qu'ils avaient en eux, qui n'ont rien à voir ni avec la psychiatrie au sens hospitalier, ni avec les traitements chimiothérapiques ou psychotropes. Et cette folie-là, je veux dire, elle est quotidienne, elle est autour de nous. Il y a des gens que vous croisez tous les jours dans la rue qui sont des grands psychotiques, mais qui ont trouvé leur équilibre de différentes manières, avec différentes prises en charge. Et je crois que, pour reprendre ce que je disais, plus chacun est capable d'être conscient de la folie qu'il porte en lui, moins il aura besoin de désigner l'autre comme fou, de l'ostraciser et de vouloir faire en sorte qu'il ne soit plus dans la cité.
Oui, Michel Patrice, je vous en prie.
Pardonnez-moi si je vous frustre une minute de débat, mais il a été question de classification, on a fait allusion au DSM, qui est la classification, pour faire bref, qui nous vient des Amériques ou de l'Amérique, sous différentes versions. La dernière version est apparue.
Des assurances diverses, je sais. Des assurances, apparemment.
Voilà.
Bon, alors, on va voir.
Si vous avez, trois heures, je vais vous raconter l'histoire du DSM. Là,
oui. Okay.
Ce que je voulais dire, je vais faire un petit peu de cocorico. Peu de temps avant sa mort, Roger Mises a réuni autour de lui quelques amis, dont j'étais. François Cabrel, le fils de mon maître, Patrick Landman, Jean Carabé, des gens assez quand même connus, papa de moi, et leur a demandé de prolonger ce qu'il avait fait, à savoir une classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, en élaborant une classification française des troubles mentaux tout court. Nous avons travaillé pendant 3-4 ans, un petit noyau de psychiatres, et le mois dernier, en décembre 2015, est paru et accessible en librairie la CFTM, classification française des troubles mentaux, R 2015, qui est, on peut dire, un acte de résistance et aussi à la fois un instrument diagnostique qui tient compte de la langue psychiatrique dans laquelle nous baignons depuis maintenant quand même un peu plus de 2 siècles.
Emmanuel Hoff, je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire à la tribune. Gardez des réserves pour tout à l'heure quand on sera dans la salle. Emmanuel Hoff.
Oui, alors je vais essayer d'être concise. J'aurais eu 1000 choses à dire et des questions à titre personnel, mais ça bon. On en parlera peut-être un autre espace-temps. Je suis très heureux d'être là parce que je me rends compte à quel point ma discipline marketing communication est très étroitement liée au sujet d'aujourd'hui. Un chaman est un leader d'opinion. Un enfant est un prescripteur principal du foyer de la consommation. La cité est quand même l'espace imaginaire dans lequel on peut créer le besoin et l'envie. Et les cultures sont quand même... Différentes cultures sont les points de rapprochement ou la création de niches de marché. Alors, effectivement...
Est-ce que vous nous laissez du cerveau encore ou pas?
Alors, c'est une bonne transition parce que c'est une question que je vais poser après. Ouais. Sans rentrer dans les détails, on doit répondre à 3 objectifs principaux. L'objectif cognitif, qui est faire connaître, savoir qu'on existe. Mm-hmm. L'objectif affectif, qui est maintenant que tu me connais, est-ce que tu as envie de m'aimer? En fait, non, on ne pose pas la question, est-ce que tu as envie de m'aimer? Aime-moi. et l'objectif conatif qui est achète-moi. Et donc, je me rends compte qu'on parle aussi d'inconscience et de conscience, on parle aussi en fait de ces leviers d'action. Et là, je vais utiliser un terme qui est peut-être plus propice, mais qui est utilisé dans ma discipline, qui est l'acte d'achat, le passage à l'acte. Et je pense que cette question autour du passage à l'acte est quelque chose à prendre avec des pincettes. Et moi, ça pose les questions éthiques de mon métier. Ce passage à l'acte est le moment où on rentre peut-être dans la manipulation, on rentre peut-être dans le réveil d'envie ou de besoin inavoué ou latent. On parlait tout à l'heure des neuromarketing, de la science neuromarketing. Mais en tout cas, ce passage à l'acte est la question fondamentale, je pense, éthiquement et déontologiquement du marketing. Ne dit-on pas qu'on, pendant les soldes, et c'est en ce moment, j'ai fait une folie.
Ensuite, on regrette après.
Oui, souvent.
Oui.
Donc on est sur la pulsion, on est en fait sur un acte sans filtre de logique ou de raison.
Oui.
Et pour terminer ce que je suis en train de dire, et pour peut-être mettre en projection une question importante qu'il me semble, on était avant dans une société de la consommation, la société du besoin et de l'envie. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de la jouissance. Cette société de la jouissance apporte des filtres de moins en moins tenus, de plus en plus tenu par contre,
pardon.
Et provoque chez nous, consommateurs, des comportements qui sont peut-être pas pathologiquement liés à la folie, mais en termes de comportement de folie. Et les nouveaux outils de la communication, je vais pas rentrer en détail, apportent des situations où on n'a plus aucun filtre, on n'a plus aucune raison, plus aucune logique, il n'y a que l'affect, l'instantané. Et l'envie d'assouvir une pulsion forte qu'on peut directement gérer en cliquant sur un like. Donc la question peut-être c'est, ne sommes-nous pas sur des nouveaux logiques, nouvelles pathologies liées à la folie, de comportement, liées à cet environnement sociétal qui évolue, et sommes-nous responsables de la folie qu'on va créer pour nous et qui se partage aux autres grâce à la communauté sociale que nous chérissons, que nous likons et que nous adorons.
Merci infiniment. Christa et Lisa.